Écoute dans la nuit. Chantal Bally, bonsoir à tous, bienvenue et merci de partager cette soirée avec nous. Pour nous rejoindre et entrer dans le dialogue, le téléphone 01 56 56 44 00. Notre invité ce soir est donc Pascal Parinet, psychanalyste, gestalt-thérapeute et formateur en relations humaines. Avec Marie-Laurence, son épouse, il propose différents parcours adaptés aux situations diverses de chacun au sein de l'Institut de formation psychrétien en vue d'une aide thérapeutique qui permet de se réconcilier avec soi-même dans toutes les dimensions de son humanité et avec les autres, et ce, dans la perspective d'être davantage disponible à l'accueil de l'action de Dieu dans nos vies. Pascal Parinet, bonsoir.
Bonsoir Chantal, bonsoir à tous les auditeurs.
Alors, eh bien, nous reprenons avec un sujet de réflexion et de partage, la psychothérapie, hein, on va parler de psychothérapie, mais la psychothérapie centrée sur le pardon.
Voilà, parce que... On connaît tous l'importance du pardon dans la vie, hein, qui vise à effacer l'ardoise,
oui,
en quelque sorte.
Oui, hein. Oui. On repart à neuf.
Et surtout à retrouver la paix, d'abord en soi-même, oui, et puis avec les autres, quand c'est possible. Alors, ça c'est le pardon. La psychothérapie, elle, l'objectif, c'est... de guérir de certaines blessures, de supprimer ou de diminuer la souffrance,
oui,
ou encore de soigner des certaines pathologies comme les phobies, les obsessions. Enfin,
oui, dont on a déjà parlé pour certaines pathologies. Alors, justement, quelle place alors le pardon en psychothérapie, hein,
C'est tout ce qu'on va voir ce soir. Et en même temps, on va voir que qu'il y a quelque chose d'aller au-delà de ce qu'on entend souvent par le pardon tel qu'on le connaît dans le langage courant.
Oui.
Alors,
de quoi s'agit-il exactement alors,
la psychothérapie, oui, centrée sur le pardon, c'est une méthode qu'on a développée avec mon épouse, d'abord à travers notre expérience. Ça fait quand même.
Oui, il y a quand même de temps à pratiquer, oui. Donc il y a des choses qui viennent.
Donc ça, c'est tout l'aspect, on pourrait dire, thérapeutique.
Oui.
Et puis aussi à travers notre expérience personnelle et non pas professionnelle.
Mm-hmm.
Et notamment la vision chrétienne.
Voilà, donc. Les deux, vous avez trouvé quelque chose qui plaidait.
Non pas ajouter du pardon dans la psychothérapie, hein, mais il s'agit vraiment de d'intégrer le processus du pardon,
oui,
à la psychothérapie. Hein, ce qui est,
oui,
différent, c'est
intégrer le processus à la psychothérapie. Oui.
À la psychothérapie.
Oui. Ça veut dire qu'il y a une démarche de psychothérapie.
Voilà. La démarche, c'est de la psychothérapie habituelle.
Oui.
Simplement, dans ce travail thérapeutique, il y a un axe,
oui,
qui est intégré, et c'est l'axe du pardon.
Et ça ajoute évidemment un plus.
Alors, ça ajoute un plus. On va voir que si on élargit le concept du pardon, on va voir que ça a beaucoup de répercussions, beaucoup d'implications
dans l'être psychologique aussi,
voilà,
dans toute la personne.
Dans toute la personne.
Eh oui, ça se comprend, hein, puisque le pardon, le pardon, parce que des fois, il faut qu'il soit justement, qu'il puisse envahir, on peut dire, tout l'être.
Voilà.
Et c'est le but un peu, je pense, de votre travail.
Voilà, et non seulement envahir l'être, mais aussi s'intégrer,
oui,
dans, oui, le psychisme.
C'est, ah, ça.
C'est-à-dire venir changer quelque chose
Une transformation.
Une transformation, oui, dans le psychisme.
Mmh, mmh. Ah. Alors donc, ça n'a rien à voir finalement avec des cheminements de pardon habituels au point de vue spirituel. Enfin.
Oui, non. Alors ça n'a rien à voir avec une retraite spirituelle de pardon. Non plus avec une retraite de guérison. Il y a beaucoup de retraites de guérison intérieure qui intègrent le pardon, enfin, qui a une démarche de pardon. Là, c'est vraiment un travail de psychothérapie et non pas un parcours spirituel, mais avec cette dimension du pardon qui est intégrée dedans.
Parce que la dimension du pardon, en elle-même, c'est une dimension spirituelle. C'est pas.
Elle est les deux.
Oui.
Il y a la dimension spirituelle, alors bien entendu dans le sacrement de réconciliation. Alors ça, c'est pas notre domaine.
Non, chacun le sien.
Voilà, et on s'en occupe pas, on renvoie vers un prêtre. Par contre, il y a toute une dimension psychologique au pardon aussi, parce que ça nous libère. Il y a tous les mécanismes de ressentiment, de souffrance pour les personnes qui n'ont pas pardonné. Il y a le désir de vengeance, il y a la haine. Tout ça, c'est psychologique.
Oui. Et il peut y avoir une démarche de pardon au point de vue du sacrement de réconciliation, mais où reste sur le plan psychologique des...
Voilà. Oui, tout à fait. D'ailleurs, avant les vacances, j'avais fait pour les prêtres de Saint-Louis d'Antin une formation autour des aspects psychologiques. Alors, pour les personnes qui viennent au sacrement de réconciliation, donc on avait fait une réunion sur ce thème-là pour bien montrer. Alors, il y a la démarche spirituelle du sacrement. Mais il y a aussi des enjeux psychologiques pour la personne. On pourrait dire les personnes qui ont besoin de se confesser sans arrêt parce qu'ils portent une grande culpabilité qui, elle, est psychologique. Il y a tout un tas de...
Et donc, les prêtres en confession peuvent être assez désarmés parfois quand ils sentent que c'est pas de leur niveau, de leur compétence, c'est d'autres choses. C'est bien
C'était prise à la demande du curé de Saint-Louis d'Antin qu'on a organisé ça. Ça permet à la fois d'éclairer des aspects psychologiques pour les prêtres qui reçoivent beaucoup de personnes, et puis en même temps de faire un peu la part de ce qui est psychologique, ce qui est spirituel.
Il y a une prise de conscience et donc ça évite la confusion.
Voilà, ça évite la confusion. Ça permet de mieux aider aussi la personne. Et de ne pas rester enfermé parfois, en tout cas d'aider la personne à sortir de mécanismes qui ne seraient que psychologiques et qui ne relèveraient pas forcément du sacrement, même si la paix... La personne peut recevoir le sacrement de réconciliation, mais
il y a
les aspects psychologiques qui restent présents.
Alors, je crois que dans la Gestalt thérapie, il y a un adage aussi.
Il y a un adage qui est une phrase de Sartre qui est « L'important n'est pas ce que l'on a fait de moi, mais ce que je fais aujourd'hui avec ce que l'on a fait de moi ». Voilà. Alors, je la recite toujours de mémoire. C'est peut-être pas mots exacts, mais c'est l'esprit.
Ça veut dire là que qu'on a une part de responsabilité.
Voilà. On a vécu des choses. Notre éducation nous a un peu canalisé, donc a fait quelque chose de nous. Mais il n'empêche que, devenu adulte, c'est à moi de prendre la responsabilité de ce que je fais aujourd'hui.
C'est ça.
Quel que soit mon passé, alors c'est pas toujours facile, mais Voilà, c'est un peu, c'est la gestalt-thérapie, c'est une thérapie qui insiste beaucoup, alors, sur tous les aspects existentiels, mais notamment la responsabilité.
Oui.
On aide à prendre conscience des personnes de ce qu'elles vivent et de comment elles font. On essaie beaucoup de centrer sur le comment, dans l'instant présent et dans la relation. Et du coup, en prenant conscience de leur façon d'être, eh bien, progressivement, elles peuvent changer et reprendre la responsabilité de leur vie plutôt que de rester, je sais pas, dans la plainte ou dans « c'est pas de ma faute, c'est parce que j'ai vu ça, j'ai vécu ça ». Donc, de s'enfermer dans un passé. Voilà, là, on travaille dans le présent et dans comment ça se passe et comment on peut faire autrement.
Alors, donc il ne s'agit pas de faire fi du passé
Non, parce que ça serait se priver de ses racines. Mais en fait, en gestalt, on prend en compte le passé quand il se réactualise dans le présent.
Ah oui, une répétition quand il y a répétition.
Voilà, soit quand il y a répétition, mais c'est un passé qui finalement devient présent.
Ben oui,
parce qu'il se répète dans l'instant présent.
Et pour être résolu, justement,
Pour être résolu, souvent, alors il y a un aspect morbide dans la répétition, en tout cas quand c'est des répétitions d'échecs, mais il y a aussi un aspect créatif qui est du côté de la tentative de résolution. Voilà, et c'est dans ce cas-là, bien sûr, on prend en compte ce qui se réactualise dans l'instant présent, mais qui vient du passé.
Prenez un petit peu d'eau, parce que je sens que... Voilà, donc... Et donc, là, dans le processus de pardon est... À sa place.
Alors, le pardon a toute sa place. Puisque il y a ou répétition ou réaction par rapport à des événements passés, mais que la personne continue de subir finalement. Même s'il y a un désir de vengeance, même si du coup ça déclenche du ressentiment.
Oui.
On peut pas dire que beaucoup de personnes aiment avoir envie de se venger. Alors, il peut y avoir un bénéfice ou un plaisir à arriver à se venger, mais dans le vécu, dans la sensation d'être dans la vengeance ou dans le ressentiment, c'est pas agréable.
Ben oui, c'est une blessure.
C'est une blessure. Oui. Du coup, la personne est quand même plutôt à subir ce qui se passe. Que de vraiment choisir. C'est très rare qu'il y ait des personnes qui choisissent vraiment d'être dans le ressentiment. C'est plutôt quelque chose qu'elles subissent à cause d'une blessure. Et ce qui fait que l'avantage du pardon, d'abord, c'est qu'il permet non seulement de rompre avec le mal, mais aussi, bien souvent, de le transformer en bien. Parce que l'attitude bienveillante de celui qui pardonne va favoriser chez l'autre aussi une attitude bienveillante.
C'est ça, oui.
Tant qu'on reste dans la vengeance, on est dans un cercle de se faire de plus en plus mal. Quand il y en a un qui pardonne et qui devient bienveillant, ne serait-ce qu'à travers le pardon, un acte bienveillant.
Ça stoppe quelque part.
Voilà, ça stoppe et ça transforme un mal en bien.
Alors, certaines personnes n'arrivent pas à pardonner, évidemment. Alors, elles se retrouvent dans des situations difficiles.
Oui, alors d'abord, soit de rester bloquées dans le ressentiment, donc de continuer d'alimenter en elles de l'agressivité, la vengeance, on a parlé, de la haine. Autrement dit, de continuer à souffrir.
Ben oui.
Hein, puisque ces sentiments-là sont des sentiments douloureux. Soit de passer dans ce qu'on pourrait appeler une pseudo-indifférence. Qui fait que la personne ne prend plus en compte les autres, ça m'atteint pas, ça glisse sur moi. Il m'a dit ça, mais je m'en moque. Vous voyez, mais en même temps qu'il y a quelque chose de faux, qu'il y ait une réaction.
Oui, oui.
C'est pas...
Enfin, de protection, on peut
c'est,
dire.
Enfin, voilà, c'est une réaction de protection. Mmh. Oui. Alors, parfois, ça peut être positif pour aider une personne à se reconstruire.
Oui.
Voilà, les adolescents, ils ont un peu ça aussi. Ils ont une petite phase comme ça où on appelle ça une phase égotique, où ils ont besoin de s'affirmer. Bon, c'est une façon de se protéger et en même temps de s'affirmer.
Mm-hmm.
Mais c'est positif si c'est transitoire.
Ouais,
à partir du moment où ça s'installe d'une façon durable, bah, ça va poser des problèmes dans la vie de la personne.
Oui, c'est sûrement, oui. Oui. Alors, c'est vrai que quand on parle de pardon, on pense tout de suite à une offense à quelqu'un qui vous a fait du mal.
Voilà. Et on pourrait dire que finalement, on situe le pardon sur le plan du bien et du mal. Hein? On m'a fait du mal. Donc, dans un cadre moral, en quelque sorte.
Mmh.
Hein, puisque le bien, le mal, ça rejoint et ça fait partie de la morale.
Mmh.
Alors, bien sûr, ça, c'est juste pour la majorité des cas. Mais on va voir qu'on peut élargir cette vision-là.
Mmh.
Parce que, par exemple, il peut arriver que des personnes... en veulent à d'autres, alors pour des blessures, hein, il y a forcément quelque chose, mais pour autant que les autres leur aient pas fait de mal.
Mmh.
Et parfois même, ils voulaient leur faire du bien.
Alors, vous voyez, c'est paradoxal, quelque
part.
C'est
un bien qui génère chez l'autre une souffrance.
Oui, oui.
Et la personne a pardonné non pas pour un mal, mais finalement pour un bien.
Bon, on voit que tout ça est complexe, hein, mais la nature humaine est complexe. Alors, bien sûr, nos auditeurs sont invités à nous rejoindre sur cette question. Alors, c'est peut-être nouveau, hein, psychothérapie centrée sur le pardon, mais il y a peut-être des questions, hein, donc, ou des témoignages au 01 56 56 44 00. Nous allons écouter tout de suite, c'est Alain Souchon qui chante tout simplement « Pardon ».
Radio Notre-Dame.
Ô libellule si délicate, ô les mésanges petites pattes, gentil coquelicot, pardon, chardon, et le noble ver de terre, pardon, le jour se rêve dans l'aubépine. Les enfants, chevreuil lancé au-dessus des fleurs, chaude perdrix au tout petit cœur, écureuil renard, pardon vipère, pardon la pluie, pardon la terre, le jour se rêve dans la nature, les enfants, le vent les aide, le vent les aide, pardon. On embête les bêtes avec des poudres, avec le DTT. Sulfate de soude, pardon. En regardant le temps passer dans la rivière, on voit des métaux lourds et du sulfate de fer, pardon. Pardon. On gêne l'oxygène, matière première. On a troué les terres et on perd de l'air. Pardon. Pardon. Pour la Côte d'Azur, excusez-nous. Pour la Côte d'Azur, pardon. précieux muguet, beau citron jaune. Pardon la flore, pardon la faune. Le jour se rêve sur les légumes, les enfants sur le bitume. Terre jolie terre, notre mère volante, avec nous dans le ciel et les étoiles filantes. Pardon, pardon. Colline fatiguée, pleine, plate, pleurez votre peine de nitrate. Pardon, pardon. Pour cette flotte plastique bleue qui prend la mer pour les millénaires. Mère volante, avec nous dans le ciel et les étoiles filantes. Terre jolie terre, notre mère volante, avec nous dans le ciel et les étoiles filantes.
Voilà, l'art de, des mots, les rythmes, voilà, avec son compère Laurent Voulzy. Des âmes d'enfants, hein.
Oui, toute la fraîcheur, oui. Ils ont su garder cette fraîcheur. Des...
C'est pour ça qu'ils traversent le temps.
Oui.
Et justement, voilà, et avec tes chansons, c'est, on peut dire, il y a une sorte de thérapie quelque part.
Oui, en tout cas de philosophie de la vie, c'est pas de la thérapie, mais oui, en tout cas, il y a une philosophie,
un sens, voilà, une façon
un sens
de regarder
de la vie, un regard sur la vie, oui. Qui, derrière une naïveté, un peu de, dans les paroles, a une profondeur dans le sens.
Et ça rejoint quelque part, avec les mots, peut-être des zones plus profondes, un peu comme le rêve éveillé, mais là, avec les mots.
Voilà.
La poésie.
Ouais. Mais je pensais à ça dans... On fait une formation à la relation d'aide et dans la formation d'écoutant, donc on a des petits exercices et je suis en train de penser en entendant Woolsey.
Ça vous inspire, hein?
Voilà. Où on fait un exercice sur traduire... donc, il y en a un qui écoute et un qui parle. De traduire ce que dit la personne en langage d'un enfant. Voilà, pour prendre plus conscience, parce que là, il y a une spontanéité, il y a quelque chose un peu de dénudé dans le langage d'enfant, qui n'est pas enrobé par la politesse, par l'image de l'adulte, par tout ça. Et donc, on fait un exercice comme ça de traduction.
Et ça permet de retrouver justement l'enfant
voilà,
de soi.
Voilà, et de retrouver vraiment ce qui, le message profond ou sous-jacent derrière les paroles un peu éduquées de l'adulte.
Ah oui, mais ça doit permettre des progrès, une libération quelque part. Ouais. Alors on va revenir justement, mais on n'en est pas très loin, la psychothérapie centrée sur le pardon. Alors vous disiez que c'est vrai, lorsqu'on parle de pardon, on pense à offense, mais pas forcément.
Pas forcément, ou en tout cas ça a pu être vécu comme une offense, comme une blessure, mais parfois... la personne
n'y
est pour rien ou voulait du bien, comme c'est le cas dans l'éducation, par exemple.
Oui.
Ça arrive fréquemment que les parents veulent faire
du
bien à leur enfant
et que ça tombe à côté,
ou en tout cas que l'enfant le vit mal et que du coup il le vit comme une blessure.
Mm-hmm.
On en parlera un peu.
Mm-hmm.
Et puis parfois il y a des personnes qui en veulent à d'autres qui n'y sont absolument pour rien dans ce qui les fait souffrir.
Mm-hmm.
On verra des exemples aussi. Ce qui veut dire que en tout cas dans cette méthode qu'on a développée, on prend en compte tous ces aspects du pardon, mais à un niveau plus profond. Et dans sa partie aussi de ce qu'il y a d'inconscient. Quand on parle du pardon, en général, on parle de la partie consciente. Un tel m'a dit telle chose ou m'a fait telle chose, ça m'a blessé, et voilà. Là, on élargit le concept du pardon aussi à des choses qui sont plus inconscientes ou plus refoulées. Ouais.
Ça, c'est plus difficile, justement, à atteindre.
Alors, c'est pour ça que c'est intégré dans le travail thérapeutique qui permet d'accéder à ces aspects-là. Et que le pardon est intégré pour faciliter aussi les changements.
Alors, vous avez parlé de blessure. On va peut-être tout d'abord, lorsqu'il y a une blessure.
Oui, alors c'est évident que dans la vie, il arrive assez souvent, finalement, que des personnes puissent faire du mal à d'autres. Et nous aussi, d'ailleurs, on fait aussi du mal à d'autres. Ça fait partie de notre humanité. Et donc c'est quelque chose d'assez normal d'avoir été blessé, que ce soit dans sa famille, à l'école, dans son travail. Dès qu'on est en société, en fait, il y a un risque d'être blessé et de blesser les autres. Et ça, à tous les âges de la vie, que ce soit dans l'enfance ou adulte ou âgé, personne n'échappe à ça. Alors là, on pourrait dire que ce type de blessure, tout le monde en connaît l'importance. On a tous conscience qu'il est indispensable de pardonner et de demander pardon pour vivre en harmonie et être heureux avec les autres.
Oui, voilà, donc oui.
Et puis, ce qui est important, c'est que le mal, quand il y a eu vraiment un mal de fait, d'une certaine façon, il lie à la personne, ou il relie, il ligote, en quelque sorte, les deux personnes, alors dans le mal, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Et tant qu'on n'a pas pardonné, eh bien finalement on continue à penser à cette personne, à ressasser ce qui s'est passé, à être énervé, à avoir de l'amertume, à désirer se venger, etc.
Donc c'est un cercle
infernal. Parce que le ressentiment va réalimenter le souvenir, qui va réalimenter le ressentiment, et la personne, finalement, risque d'aller plutôt vers la haine, ou en tout cas, ce qui va l'inciter à ne pas pardonner.
Oui, ça devient de plus en plus difficile, finalement.
Voilà, ça devient de plus en plus difficile de pardonner.
Et on voit l'importance du pardon, oui.
Voilà. Et du coup, le pardon, il permet de retrouver cette liberté intérieure. Alors, mais ça va aussi plus loin, parce que les deux sont liés ensemble.
Ah oui. Alors, dès qu'il y en a une qui pardonne...
Voilà, ça libère les deux. Ça libère les deux, parce que celui qui a fait du mal, soit il se sent coupable, soit il ressent que l'autre lui en veut... et ça crée des tensions dans les relations. Et donc avec le pardon, eh bien, il va aussi être libéré.
Donc les deux.
Ça libère les deux.
Oui.
Voilà, alors, mais tout ça concerne les blessures conscientes, c'est-à-dire celles avec lesquelles on est à peu près au clair.
Oui.
C'est ce qui s'est passé, en gros.
Mais ce n'est pas toujours le cas.
Voilà, mais ce n'est pas aussi clair que ça en général.
Oui.
Et il y a beaucoup d'aspects qui peuvent être oubliés ou qui peuvent être refoulés. Mais ce n'est pas pour autant que ça ne continue pas d'agir dans la vie de la personne.
D'une façon souterraine.
Oui. et surtout de générer une souffrance. D'une façon souterraine. Et bien souvent, la personne a conscience d'une partie de l'iceberg. Et on voit, par exemple, pour des personnes qui ont été blessées, souvent, elles ont un souvenir assez vague de la période, ou parfois pas de souvenir de toute une période de leur vie.
Il y a un blanc.
Oui, il y a un blanc où il y a des souvenirs, mais ça reste très flou.
Oui.
Et par contre, elles peuvent en mesurer les conséquences dans leur vie présente, en termes de manque de confiance, en termes de mauvaise image de soi, de dévalorisation, de rancune, de révolte. Et donc là, on est dans la nécessité de faire un travail sur soi pour aller au-delà de voir la totalité de l'iceberg, de façon à pouvoir vraiment le prendre en compte. Et puis aussi prendre conscience des mécanismes que ça induit après, dans la vie de la personne.
Alors ça, c'est quand il y a une blessure.
Oui.
Mais il peut y avoir plus qu'une blessure, un traumatisme.
Oui, il peut y avoir des traumatismes. Le traumatisme, c'est un événement qui fait irruption dans la vie de la personne et qui souvent laisse un blanc. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui ont oublié certains traumatismes, surtout quand ils sont dans l'enfance. Et donc, ça laisse un blanc. Dans le traumatisme, il y a une impossibilité de penser, en fait. De penser et de se représenter ce qui est en train de se passer. Et c'est blanc. C'est comme un écran blanc au cinéma. C'est dû à ce qu'on pourrait appeler une surtension émotionnelle, c'est-à-dire la personne est tellement envahie par les sensations, les émotions, que ça coupe, comme un disjoncteur, quand il y a une surtention. Et ça laisse cet espace.
Et par un travail, on peut faire remonter.
On peut faire remonter avec prudence parce qu'il ne s'agit pas de lever le couvercle de quelque chose qui serait très douloureux. Mais c'est tout le travail de thérapie, justement, d'amener les prises de conscience d'une façon très progressive. D'ailleurs, c'est la personne elle-même qui prend conscience d'une façon progressive en fonction de ses possibilités du moment. C'est-à-dire qu'on ne peut pas brusquer la prise de conscience. C'est à la personne d'aller à son propre rythme.
Et ça peut des fois durer longtemps.
Tout dépend de la force du traumatisme qu'il y a eu et des événements. Pour prendre quelques exemples, il y a des traumatismes comme des deuils dans l'enfance. Un deuil, c'est douloureux, mais c'est pas forcément un traumatisme. Par contre, un deuil vécu dans l'enfance, ça peut faire vraiment traumatisme. Ou d'autres, à l'âge adulte, imprévisibles, comme la mort accidentelle ou la mort par suicide.
Choses violentes.
Des choses qui sont brutales, qui sont violentes, vont nécessiter tout un travail d'élaboration. Parce que la personne, ça fait tellement traumatisme que la personne reste enfermée dans un questionnement, dans une incompréhension, dans une impossibilité presque de penser les choses, ce qui s'est passé.
Elle est figée sur...
Elle est figée, alors souvent sur le temps d'avant ou le temps d'après. Je pense à une personne qui avait vécu un suicide dans sa famille et qui était figée sur... Le matin de la journée où la personne s'est suicidée, à se reposer toutes les questions de qu'est-ce qu'elle a pas vu, qu'est-ce qu'elle aurait pu faire.
Oui, enfin, donc la culpabilité.
Toute la culpabilité.
Et sur ce qui s'est passé après, c'est-à-dire par exemple alors, figé sur après, avant, voilà, on peut comprendre.
Il y a des personnes, ça va être le contraire. Ils vont avoir la conscience du moment où ça s'arrête.
Ah oui, où la vie s'arrête, oui.
Toute la séquence, quand il y a des traumatismes qui durent, par exemple, quand il y a eu de la maltraitance, ils peuvent avoir des souvenirs de... Je ne sais pas exactement comment ça s'est passé. Le souvenir est très flou, mais je sais que...
Au moment où ça s'est arrêté.
Voilà, là, ça s'est arrêté parce qu'il s'est passé ça.
Oui, d'accord. Ah. Donc, on va y revenir dans quelques instants à tout cela. C'est important de... Oui, ce qui est un traumatisme, ça arrive quand même assez souvent. On va y revenir. Donc ce soir, on parle avec Pascal Parinet de la psychothérapie centrée sur le pardon. Je vous rappelle le téléphone pour nous rejoindre, 01 56 56 44 00. Nous allons écouter tout de suite Véronique Sanson, Celui qui n'essaie pas.
Radio Notre-Dame.
Pas facile de
Là, ben, c'est, ça bouge, hein, ce soir. Véronique Sanson, tout à l'heure, c'était Alain Souchon. Là, c'est donc celui qui n'essaie pas, c'est le titre. Donc, ce soir, avec Pascal Parinet, nous parlons de la psychothérapie centrée sur le pardon. Et on évoque différents cas. Et là, vous nous parliez de le pardon, le pardon lorsqu'il y a un traumatisme. Vous nous disiez qu'un traumatisme, donc c'est un événement qui fait irruption dans la vie de la personne, qui souvent laisse un blanc à cause de ce que vous disiez qu'on peut appeler une surtension émotionnelle.
Voilà, une surtension émotionnelle, oui. Un peu comme on peut comparer ça à un court-circuit,
oui,
électrique.
Oui, c'est ça, ça disjoncte.
Ça disjoncte et ça coupe. Mm. Ce qui fait que la personne n'a plus accès à ce qui s'est passé. Mm. Il y a une coupure qui se fait,
oui.
Bah, pour qu'elle puisse supporter, finalement.
Bah oui, c'est ça, bien sûr, oui.
Voilà, et on parlait aussi de deuil imprévisible, soit de deuil dans l'enfance, soit de deuil à l'âge adulte, mais dans des situations, oui, violentes, accidentelles ou autres. Mm. Et dans ces cas-là, souvent la perte peut être vécue comme un abandon, ou comme une violence. Hein. On parlait du suicide. Le suicide, c'est aussi une violence pour ceux qui restent.
Bien sûr.
Et qui va générer une colère contre la personne. Mais une colère qui est pas possible de s'exprimer. L'adulte ou l'enfant va s'interdire d'être en colère contre la personne décédée. Et du coup, cette colère, elle va se retourner contre soi. Sous forme de culpabilité ou d'autres problèmes.
Mm-hmm.
Voilà, et là, c'est important de prendre conscience de comment a été vécue finalement cette perte, de cette colère aussi, qui est normale.
Oui.
Hein? Parce que dans le deuil, on passe par tout un tas d'émotions.
Bien sûr, oui.
Et puis, souvent, de pouvoir pardonner à la personne décédée.
De vous avoir abandonné, quelque part.
Voilà, quand c'est un enfant, de pardonner que le parent qui est décédé l'ait abandonné, même s'il
n'y
peut rien.
Oui, mais il ne peut rien, mais l'enfant le vit comme ça, par exemple.
L'enfant peut le vivre comme un abandon.
Mmh. Et même l'adulte. Hein,
même l'adulte, oui. Oui.
Alors, pour d'autres choses traumatiques.
Voilà. Pour des traumatismes comme la maltraitance, la violence, qu'elle soit physique ou psychologique, c'est facile de comprendre que ça va être beaucoup plus difficile de pardonner.
Oui.
D'autant plus que souvent une bonne partie des vécus sont refoulés, c'est-à-dire qu'ils sont plus conscients. Et parfois, il y a un clivage par rapport à ce vécu, c'est-à-dire qu'il est plus accessible à la conscience pour la personne qui l'a vécu. Et donc, il y a d'abord, avant de pouvoir envisager le pardon, tout un travail de reconstruction qui est nécessaire. Et bien souvent, ça va être ce travail d'élaboration de ce qui s'est passé et de comment ça a été vécu, qui va permettre le pardon en lui-même. Même si la personne ne le nomme pas toujours, d'ailleurs, elle n'est pas obligée de dire « Ah ben, maintenant, je peux lui pardonner. » Mais c'est tout le travail.
Ça va de soi, oui.
Voilà, ça, d'élaboration du vécu qui va permettre le pardon. Voilà, et puis il y a d'autres fois, il est nécessaire d'obtenir une réparation, souvent par la reconnaissance du fait que la personne a été victime, ce qui va ouvrir au pardon, en fait.
Donc ça nécessite des traumatismes, un travail en profondeur. Hein.
Oui, avant d'imaginer de pouvoir pardonner, il y a déjà tout un travail en profondeur nécessaire. Il faut se méfier des pardons trop rapides, qui sont intellectuels souvent,
qui descendent pas,
qui descendent pas par rapport au vécu.
Donc ça n'apporte pas de pacification. Hein.
Non.
Alors vous allez mettre votre casque, Pascal Parinet, parce que nous allons écouter tout de suite Geneviève qui est en ligne. Bonsoir Geneviève.
Bonsoir Chantal, bonsoir Monsieur Parinet.
Bonsoir.
Je suis heureuse de pouvoir vous demander un conseil pour une amie qui a vraiment un gros problème. Voilà, c'est une personne très chrétienne qui avait des activités paroissiales, etc. Elle avait deux filles il y a 25 ans à peu près. Elle avait hébergé un neveu en qui elle avait toute confiance. Et il voulait être prêtre, tout le monde l'appréciait. Mais au bout de 2 ans, ses deux filles lui ont avoué que ce neveu les violait et les menaçait de représailles si elles parlaient. Alors, à présent, ses filles sont mariées, hein, puisqu'il y a de ça, il y a déjà pas mal d'années.
Oui.
Mais elle, la personne, cette amie, reste toujours très touchée, dépressive, n'arrive pas à sortir, n'arrive pas à pardonner à ce neveu, et non plus à la mère de ce neveu qui le savait et ne disait rien. Elle n'arrive pas à s'en sortir, elle a une dépression, elle est malade, et voilà. Je voulais vous demander, que peut-on lui conseiller? Je pense qu'il faudrait que, si vous vouliez bien, qu'elle vous joigne peut-être pour que...
Oui, en tout cas, il faut qu'elle consulte quelqu'un, justement, pour faire un travail thérapeutique. Parce que là, on est dans l'ordre du traumatisme pour les enfants, les filles, évidemment, mais aussi pour cette personne-là, avec sans doute une grande culpabilité de ne pas avoir vu, enfin, vous voyez. Et tout ça, ça nécessite d'être éclairci avec quelqu'un qui en connaît les mécanismes et qui pourra l'aider.
Oui. Alors, que pourriez-vous, comment me diriger pour que je puisse la conseiller?
Voilà, je sais pas, c'est quand elle vous en parle, par exemple, ou...
Je ne l'ai pas entendue depuis un très bon moment.
Oui, ou quand vous savez qu'elle est dépressive, de lui dire... vous voyez, vous n'êtes pas obligé de revenir à cet événement-là, mais ne serait-ce que par rapport à tout l'aspect dépressif, qu'on peut comprendre, mais en même temps, si elle n'est pas sortie de cette dépression, ça veut dire que les choses n'ont pas été résolues. Donc, de prendre par l'aspect dépressif, de voir quelqu'un pour se faire aider.
Alors là, j'habite près de Melun. Vous voyez vers qui je pourrais la diriger?
Comme ça, non, je peux pas vous dire, mais...
Oui.
Enfin, pas de tête.
Oui.
Voilà, mais de toute façon, vers un psychothérapeute ou un psychanalyste.
Oui.
Faut voir sur place,
voilà.
Oui.
Déjà, je crois qu'il faut... C'est important. De toute façon, c'est elle qui va choisir la personne avec qui elle va parler, parce que c'est important.
Oui.
Il faut qu'il y ait une relation de confiance qui se crée entre les deux. Voilà, donc ça, c'est la personne, c'est plutôt à elle de choisir. Maintenant, ce que l'aide que vous pouvez lui apporter, c'est de lui conseiller la démarche de se faire aider. C'est déjà beaucoup. À partir du moment où elle va se mettre en mouvement, elle trouvera.
Oui. Oui, je comprends. C'est le moyen de faire les premiers pas
vers la
guérison.
Voilà.
Très bien. Mais oui, parce que j'ai beau, moi, lui dire comme ça que, bon, ses filles ont fait leur vie, elles s'en sortent. Elle s'en sort, mais en fait, elle, c'est elle qui ne s'en sort pas.
Oui, oui.
Elle est culpabilisée, elle n'arrive pas à sortir de ce sentiment-là. Voilà.
Oui. Ah oui, puis elle se dit qu'elle aurait dû le voir.
Mais oui, c'est ça.
Enfin, tout à fait, oui.
Tout ce qu'on pourrait se
donc,
dire.
Oui, voilà. Et c'est tout ça qu'elle peut arriver à se libérer en psychothérapie.
Très bien. Bon.
Voilà, Geneviève. Hein,
je vous remercie infiniment de vos conseils, parce que c'était un cas assez douloureux, difficile.
Ben oui, on comprend. Hein,
oui. C'est... Ah oui, c'est très dur. Simple. Ça dure depuis des années et elle ne s'en sortait pas.
Ouais.
Bon, eh bien, je vous remercie beaucoup et Chantal et M. Parinet.
Merci, Geneviève.
Continuation de votre belle émission. C'est très, très, très intéressant toujours. Merci.
Bonsoir, Geneviève.
Bonsoir.
On va poursuivre un petit peu, Pascal Parinet. Là, on parlait lorsqu'il y a un traumatisme, le pardon lorsqu'il y a un traumatisme, c'est pas évident, on se comprend. Hein. Et lorsqu'il n'y a pas le mal qui a été fait, vous disiez tout à l'heure qu'il arrive que d'en vouloir à une personne qui n'a pas fait de mal et même qui voulait faire du bien. Et pourtant, ça a été vécu comme une blessure.
Oui, alors ça, ce sont des blessures assez fréquentes dans l'enfance. Mmh. Les réprimandes des parents pour éduquer l'enfant, par exemple. Les remarques d'un professeur à l'école ou bien d'autres situations peuvent blesser un enfant. Mmh. Ça peut aussi arriver à l'âge adulte, dans son travail, dans des quiproquos, dans des problèmes de communication. Voilà, par exemple, un enfant qui est hospitalisé ou envoyé même en colonie de vacances, donc pour pouvoir profiter
De l'air, des vacances, oui.
Peut vivre l'événement comme un abandon et en garder une rancune.
Mmh. C'est pas les jolies colonies de vacances. Là.
Voilà.
C'est pas vécu comme ça.
Voilà, tout dépend de l'âge de l'enfant.
Ben
en
oui.
fait, de comment l'enfant va vivre l'événement.
S'il pense qu'il a été vraiment abandonné par ses parents, c'est ça, il peut vivre comme ça très jeune.
Ou abandonné, ou rejeté. Envoyé
loin.
Voilà, s'il y a un frère ou une sœur qui n'y va pas et que lui y va, il peut peut-être se dire, mais pourquoi moi et pas l'autre. Enfin,
oui, bien sûr.
Il peut y avoir tout un tas d'événements. Mm. Et donc, ça fait qu'il arrive souvent d'être blessé, alors plus dans l'enfance, parce qu'à l'âge adulte, on raisonne un peu plus, mais aussi à l'âge adulte, alors que finalement, il n'y a pas réellement un mal fait, et que parfois même, c'est plutôt un bien. Quelque chose de positif au départ, mais de le vivre comme si c'était un mal.
Alors, pour reprendre l'exemple de l'enfant envoyé en colonie de vacances, par exemple, qui vit ça comme un rejet de sa famille...
Voilà, mais là, ça veut dire qu'il va être nécessaire de pouvoir revivre tous ces événements-là.
Oui.
Et surtout de pouvoir porter un regard plus global et adulte sur la situation. Autrement dit, d'en comprendre tous les enjeux pour pouvoir réaliser que finalement, si on prend la colonie de vacances, les parents étaient plutôt dans quelque chose de bienveillant.
Ben oui, pour lui, au contraire.
Voilà. Et que ça appartient en propre au vécu de la personne, de l'enfant qu'il était, de l'avoir pris pour quelque chose de mal, alors qu'au départ, c'était bienveillant.
Bien sûr, oui.
Et ça, c'est à la fois de pouvoir se remémorer les choses. Alors ça, c'est tout le travail de la thérapie, mais aussi de reporter un regard adulte dessus.
Alors, donc, on va y venir dans quelques instants. Puis je rappelle à nos auditeurs qui sont invités aussi à nous rejoindre au 01 56 56 44 00. Ce soir, nous parlons de la psychothérapie centrée sur le pardon avec Pascal Parinet, qui est psychanalyste et gestalt-thérapeute. Et nous vous invitons à nous rejoindre donc avec vos questions centrées sur... sur la question du pardon et notamment comment la psychothérapie peut venir là au secours, en aide. On se retrouve tout de suite après 23h.
Radio Notre-Dame.
23 heures.
Radio Notre-Dame.
Voilà, donc ce soir avec Pascal Parinet, la psychothérapie centrée sur le pardon. Pour nous rejoindre, 01 56 56 44 00. Et on écoute tout de suite Camille qui est en ligne. Bonsoir Camille.
Bonsoir Chantal.
Oui, bonsoir.
Je suis heureuse de vous avoir en ligne parce que je vous écoute très souvent. Et là, ce soir, je voulais appeler. Alors, je dis aussi bonsoir à Pascal Parinet, bien entendu.
Bonsoir.
Bonsoir, voilà, oui. Allez-y.
Alors, ma question à moi, elle est, alors, c'est aussi une question personnelle, mais c'est le genre de réflexion que j'ai entendu, que j'ai lu. Le fait de pardonner, pardonner, oui, de donner son pardon ou d'accepter le pardon, ça peut aussi vouloir dire que, enfin, que l'on retourne sa veste, enfin, si vous me passez l'expression, que l'on change d'avis, quoi. Et donc, alors, on sait bien que le pardon, c'est aussi pour se construire, mais est-ce qu'il n'y a pas un autre chemin à suivre? Est-ce que c'est le passage obligé? Voilà, c'est vraiment la question. Parce que ça peut vouloir dire aussi qu'à la limite, on change d'avis, quoi, c'est cela.
Eh bien, j'ai envie de dire tant mieux si on change d'avis. Parce que la vie, c'est justement le changement. Hein. Et ne pas pardonner, c'est rester bloqué. C'est faire un arrêt sur image. Vous voyez, ce qui est important de comprendre, c'est que le pardon, c'est pas seulement une décision, c'est un processus.
Oui, c'est ça, c'est plutôt voilà. Que ça relève d'un processus.
Voilà, c'est un processus qui se passe à chaque fois qu'il y a une blessure.
Mais un processus voilà, de guérison, parce que vous parlez en tant que psychothérapeute, vous, oui. Un processus de guérison.
Tout à fait.
Qui
nous permet justement de dépasser les événements et de les intégrer et d'en faire quelque chose. Et d'en en faire quelque chose, on pourrait rajouter aussi apprendre à se faire respecter. Vous voyez, je suis en train de reprendre tous vos termes là. Votre argument c'est si je pardonne, je me respecte pas, je retourne veste. Eh bien, moi, je suis en train de vous expliquer que le pardon, ça permet non pas de rester bloqué par rapport à un événement, mais de traverser les événements et d'éliminer la souffrance. Et en même temps, d'en apprendre quelque chose et entre autres de se faire respecter par l'autre.
Mais alors, la finalité, c'est quand même à une fin, on va dire, spirituelle, quelque part.
Alors, les deux, à une fin spirituelle par rapport au bien et au mal, mais aussi à une fin psychologique, c'est ce que je disais au début, tant qu'on n'a pas pardonné, on est dans le ressentiment, on est dans le désir de vengeance, ou dans l'orgueil, ou dans la haine. Vous voyez, on est dans des sentiments qui sont négatifs et qui amènent de la souffrance.
Oui, mais il peut se faire, si vous voulez, que la personne avec qui on a eu bon, ce quiproquo, à un moment donné, il peut se faire que cette personne, on est en contact avec elle.
Oui, mais on n'a pas besoin d'être en contact pour pardonner. Vous voyez, là où il y a besoin de contact, c'est pour se réconcilier.
Oui, d'accord.
Mais pour pardonner, le pardon, alors le pardon, c'est pas d'aller dire à l'autre je te pardonne. Ça, c'est une attitude un peu supérieure de dire t'as vu, je suis mieux que toi, je te pardonne. Le pardon, c'est vraiment un processus intérieur qui est un processus qui passe par des sentiments. Alors, souvent, ça passe par tout un tas d'émotions, de colère, de tristesse. Mais c'est un processus qui se déroule jusqu'à faire quelque chose, donner du sens, d'abord accepter ce qui s'est passé, mais accepter en donnant du sens qui va permettre de faire quelque chose de ce qui s'est passé et notamment de se faire respecter les autres fois.
Mais ça marche même si, par exemple, alors moi, bon, je vais pardonner, bon, à cette personne, mais ça marche même si cette personne, bon, elle est passée au-dessus de cela, et à la limite, elle y pense même plus, vous voyez ce que je veux dire?
Oui, tout à fait, parce que le pardon vous concerne autant dans la dimension spirituelle, elle concerne aussi l'autre. Autant là, c'est vraiment, on parle du pardon en tant que processus intérieur, donc qui permet de se libérer de la souffrance due à l'offense. Et à partir de ce moment-là, il n'y a plus ce lien dans le mal avec l'autre, mais il y a un lien alors qui peut être neutre. Il y a un lien qui peut être dans la réconciliation, donc dans la bienveillance, ou il y a un lien qui peut être dans la distance, par exemple quand c'était une personne toxique ou qui répéterait, malgré tous les pardons, qui répéterait sans arrêt, ben à ce moment-là, peut-être faut prendre une distance, pardonner, mais sans pour autant laisser la personne se rapprocher à nouveau. Et donc se respecter et se faire respecter.
Oui, enfin, moi j'ai envie de parler de respect à partir du moment, enfin ça dépend des situations peut-être, mais à partir du moment où il y a eu réparation, par exemple, voyez ce que je veux dire?
Mais le respect, c'est la responsabilité de chacun de se faire respecter. Ça veut dire d'abord de se respecter soi-même.
Oui.
Quand on laisse l'autre nous faire du mal, ça veut dire qu'on ne s'est pas respecté soi-même. On n'a pas posé des limites du respect personnel. Et vous voyez, du coup, le respect de soi, bien souvent, on le perçoit à la fin. Parce qu'on intègre l'expérience, on intègre ce qui s'est passé et on se dit, bah, voilà, maintenant je me fais respecter. Mais c'est quelque chose qui devrait être présent en permanence.
Oui, d'accord. Écoutez, voilà. Je vous remercie.
Vous verrez, on va parler un peu plus tard du processus qui se déroule. Ça vous aidera à mieux comprendre tout ce que je suis en train de dire.
Voilà, Camille, merci de votre intervention. Bonsoir.
Bonsoir à vous, merci également.
Bonsoir.
Alors, on va poursuivre un peu, Pascal Parinet. Alors, là, on a vu, lorsqu'il n'y a pas de mal qui a été fait, hein,
oui.
Pardon dans ce cas-là, mais on a pris l'enfant envoyé en colonie de vacances, il y a un quiproquo, il prend ça comme un rejet, mais alors que les parents étaient bienveillants, au contraire, voulaient l'envoyer prendre l'air en vacances, enfin bon.
Oui, alors là, on est dans des événements, il n'y a pas de mal qui a été fait, mais il y a eu un événement.
Il y a eu un événement, oui.
Quand même, que l'enfant ou l'adulte a vécu comme quelque chose de mal. On peut regarder maintenant quand...
Encore une autre situation.
Voilà. Quand l'autre n'y est absolument pour rien, c'est-à-dire qu'il n'y a pas eu d'événement.
Alors, expliquez-nous. Il arrive que... On passe, oui, de rendre responsable d'autres personnes qui n'ont
aucun lien.
Aucun lien, voilà.
Avec la souffrance vécue.
Oui, alors qu'est-ce que ça veut dire, cela?
Alors, ça arrive souvent que des personnes confrontées aux limitations de la réalité, de la vie,
oui.
De la réalité, en rendent responsables les autres. Par exemple, quand une personne a un désir qu'elle a du mal à reconnaître, mais qu'elle porte en elle un désir, donc qui n'est pas très conscient, puisqu'elle a du mal à le reconnaître, mais que ce désir est limité ou empêché par la réalité, ça va générer une frustration, hein, ce qui est tout à fait normal.
Oui.
Voilà, mais certains, au lieu d'accepter cette frustration de la vie concrète, finalement, vont en rendre, en quelque sorte, se libérer de la frustration en rendant responsables les autres. du moins, ils vont transformer cette frustration en agressivité en rendant les autres coupables. Voilà, alors ça peut arriver par rapport aux parents, par rapport aux conjoints, aux collègues de travail, et souvent sans même réaliser le lien qui peut exister entre le désir frustré et le ressentiment. Alors ça arrive par exemple fréquemment dans les couples, quand un des deux est frustré par la réalité de la vie quotidienne ou professionnelle, et qu'il s'en prenne à son conjoint au lieu de prendre conscience de ses propres désirs. Désirs, comme je dis, qui ne sont pas assumés ou qui sont en grande partie refoulés. Et du coup, ça peut concerner beaucoup d'aspects de la vie, et on pourrait dire que quand il y a un désir qui n'est pas reconnu ou qui n'est pas conscient, et qu'il n'est pas possible, soit à cause de la réalité, parfois à cause d'une censure morale aussi, parce que la personne se l'interdit. Alors souvent, la frustration va donner de la colère et sera remportée sur un autre. Et on pourrait dire que c'est aussi le cas de tous les... Enfin, pas de tout, mais ça peut être le cas aussi par rapport aux fantasmes inconscients. C'est-à-dire qu'on porte tous en nous des fantasmes inconscients, qui sont des scénarios imaginaires, et qu'on peut projeter sur les autres, en tout cas rendre les autres responsables des limites que nous impose notre conscient et notre morale ou la réalité.
Alors... parfois aussi le fait de projeter ses propres sentiments ou ses ressentis sur d'autres aussi.
Oui, alors ça arrive souvent aussi de projeter ses ressentis sur quelqu'un d'autre et du coup ça peut amener à rendre l'autre responsable de notre mal-être. C'est le cas, on pourrait dire, de toutes les petites parano dans le sens courant populaire du terme. À chaque fois qu'on a des petites parano, finalement, on rend l'autre responsable de nos propres sentiments ou ressentis. C'est aussi souvent le cas dans des sentiments de culpabilité non fondés. On va projeter sur l'autre des jugements ou des rejets ou autres, les sentiments d'être jugé, d'être rejeté par les autres. Donc là, on n'est même pas dans la pathologie, hein, on n'est pas en train de parler de véritable pathologie, mais ça arrive assez fréquemment de rendre l'autre responsable de ce qui ne va pas en soi, alors que la personne n'y est vraiment pour rien et ne peut rien y faire, finalement.
Bien sûr. Alors, on va peut-être passer maintenant au pardon, hein, comme processus intégré à la psychothérapie. Voilà. Comment, là, on a vu des cas différents.
Hein, voilà, on a vu des situations. Des exemples.
Oui. Alors, on va peut-être commencer... par voir, justement, à travers ces quelques ces exemples que vous nous avez donnés, comment le pardon, justifié ou pas, peut s'intégrer dans la psychothérapie.
Justifié ou pas, dans le sens où il n'y a pas forcément événement.
Oui, c'est ça, il n'y a pas eu...
On étend le concept du pardon à chaque fois qu'on rend responsable l'autre de notre souffrance.
Pour rien, hein, donc là c'est...
Voilà. Mais la première des choses, c'est dans le processus du pardon général, c'est de prendre conscience de son ressenti, de ses émotions, de ce qui caractérise en premier le vécu. C'est souvent de l'émotion. Alors ça peut être de la tristesse, de la colère, de la peur. Et si l'émotion n'a pas pu être acceptée, eh bien, elle va rester attachée au souvenir et lui donner une dynamique. ce qui fait que ça va réalimenter sans arrêt du ressentiment. C'est ce qui fait que des personnes ressassent des souvenirs ou en ressassent de la colère ou ressassent de la culpabilité. Voilà peut-être ce qui se passe pour cette personne dépressive dont on parlait tout à l'heure.
L'ami a appelé, oui.
Voilà, et d'autant plus qu'en évoquant le souvenir, par exemple, il y a des personnes qui vont vous raconter des choses qui sont passées il y a 10 ans et qui vont avoir la même colère que si ça venait de se passer. Et ça, d'une façon répétitive. Ce qui veut dire que ça reste bloqué au niveau de l'émotion parce qu'elle n'a pas été vraiment accueillie.
Alors, oui.
Voilà, donc
ça, c'est.
C'est la première chose.
Première chose,
prendre et conscience ensuite, des émotions.
Voilà. C'est le premier point, ça. Et ensuite.
Alors, je crois. Ensuite, ce qui est important, c'est de se poser la question, qu'est-ce que ça vient toucher en moi ? Finalement, quand on rend quelqu'un d'autre responsable de sa propre souffrance, que ça soit justifié ou pas, ça veut dire que les événements sont venus toucher quelque chose en nous. Et donc là, il s'agit de renouer avec son ressenti, mais pas seulement avec les émotions, comme je le disais, mais de remonter le fil du ressenti jusqu'à la première sensation.
Dans le domaine du ressenti, ce qu'on a ressenti, oui.
Voilà, la première sensation. L'émotion, elle vient en deuxième.
Oui, mais il y a d'abord un ressenti.
Voilà, il y a d'abord un ressenti qui est une sensation souvent très rapide.
Qui déclenche l'émotion
et assez
très
diffuse, qui va déclencher l'émotion.
Donc il faut retrouver cette première sensation.
Cette première sensation. Parce que l'événement, les paroles, les attitudes sont venus toucher quelque chose au plus profond de la personne et elle y a réagi à sa façon. Et donc, il y a à reprendre conscience des sensations physiques qui interviennent vraiment au premier instant et puis à pouvoir les nommer. Souvent, on dit « il m'a fait du mal ». Ok, il m'a fait du mal, mais
qu'est-ce que j'ai ressenti ?
Quel a été mon ressenti ?
Oui.
Qu'est-ce que c'est venu toucher en moi ? Voilà. Ce qui veut dire que ça nécessite de faire des liens. Parce que si ça vient éveiller quelque chose en nous, si ça nous rejoint de façon spéciale, parce que peut-être notre voisin n'aurait pas réagi de la même façon.
C'est ça, oui. Il n'a pas le même vécu.
Ou ne l'aurait pas vécu pareil. C'est qu'il y a des liens à faire. Par rapport à notre vécu personnel ou par rapport à notre vécu fantasmatique ou imaginaire. C'est-à-dire qu'à chaque fois qu'un événement nous blesse, ça veut dire que ça rejoint quelque chose de notre vécu imaginaire, de notre vécu passé, ou de notre identité. Ça peut venir nous toucher aussi dans notre identité. Voilà, et donc, ça veut dire de prendre conscience du retentissement et d'élargir un peu le champ au-delà de cet événement particulier, mais voilà, à quoi d'autre, à quel autre type d'événement ça nous renvoie, à quelle sensation ça nous renvoie.
Merci Pascal Parinet, on va revenir et avec nos auditeurs sur tout cela. Le téléphone 01 56 56 44 00. On écoute tout de suite Barbara Streisand, Memory.
Radio Notre-Dame.
Midnight, not a sound from the pavement. Has the moon
Barbara Streisand, Memory, c'est bon aussi de faire mémoire pour, hein, c'est cela, de prendre conscience, hein, donc faire.
Voilà, prendre conscience, c'est aussi faire mémoire, en tout cas quand ça concerne le passé.
Alors, on va prendre tout de suite Pierre qui est en ligne. Bonsoir Pierre.
Bonsoir.
Bonsoir.
Bonsoir, c'est Chantal et
Pascal, oui.
Et Pascal, voilà. Alors, c'était pour apporter un témoignage sur le pardon par rapport aux clés que j'ai trouvées en rapport à ce qui me concernait pour accorder un pardon.
Allez-y, on vous écoute.
Par rapport à une situation qui était, bon, particulière.
Oui.
À la base, je suis un enfant de l'assistance publique.
Oui.
Et j'ai été élevé par une famille d'accueil.
Oui.
Et dans cette famille d'accueil, j'ai subi de la maltraitance infantile.
Oui.
Durant très longtemps, parce que ça a duré longtemps. Et j'en ai tellement voulu à ces gens que en moi, j'avais une forme de haine qui m'a poussé très loin jusqu'à être à la limite de commettre l'irréparable parce que j'en étais arrivé à des envies de entre guillemets, de meurtre. Je trouve que c'était très grave. C'était vraiment très grave d'avoir que en moi, j'ai une haine qui était aussi forte qui aurait pu me conduire à vouloir tuer ces gens parce que je les rendais responsables et coupables de cette maltraitance qui, ça m'a fait une douleur terrible en moi.
Ouais.
On comprend.
Et,
hein.
et j'ai dit que je ne pouvais pas continuer à vivre avec ça en moi. Il fallait que j'arrive à pardonner.
Ouais.
Il fallait que j'arrive à me sortir de cette histoire.
Ouais.
Bon, alors, mais en même temps, j'ai fait un travail intérieur et je me suis aidé de la foi. Et j'ai réussi à... Maintenant, j'ai 50 ans, donc ça date pas de... Et ce pardon, j'ai réussi à le donner il y a très peu de temps, en fait.
Ouais.
Mais un vrai pardon, pas un pardon illusoire. Parce que j'ai essayé de dénouer, de trouver les clés pour pouvoir le pardonner. Et j'en ai tiré la conclusion que une personne qui vous fait du mal, déjà, il faut, comme vous disiez tout à l'heure dans l'émission, il faut du discernement. Est-ce que c'est un mal qu'on a réellement subi? Ou est-ce que c'est un mal parce qu'on a mal interprété une situation? Comme vous disiez tout à l'heure, que des parents pouvaient avoir une action pour faire plaisir à leurs enfants, que les enfants ne comprennent pas ça et qu'ils prennent ça pour une, une douleur.
Ouais. Alors, dans, la, dans la maltraitance, c'est différent. Là, il y a vraiment un mal subi.
Oui. Bon, donc, j'ai déjà fait un travail pour faire le discernement. Est-ce que vraiment c'était une vraie maltraitance ou une mal compréhension de ma part de l'éducation que j'ai reçue?
Ah, et vous avez, vous avez au départ eu ce... Vous vouloir discerner, parce que la maltraitance... Alors, c'était une vraie maltraitance.
Oui, c'était une vraie maltraitance. Et après, et après, j'ai trouvé les clés. Bon, c'est grâce à la foi, je veux dire, que j'ai découvert qu'une personne, que l'amour qu'on peut donner à l'autre, c'est la chose qu'on donne sans se retenir. Donc, et qu'une maltraitance, 9 fois sur 10, elle est basée sur un manque d'amour, un manque de bienveillance et que de l'égoïsme. Donc une personne qui ne vous donne pas ça, c'est qu'elle l'a pas en elle. Elle est bloquée en elle pour vous le donner. Et forcément, elle vous fait du mal parce qu'elle n'est pas en mesure de vous traiter avec amour, avec bienveillance et sans égoïsme. Donc je suis obligé de pardonner le mal qu'on me fait parce que la personne qui me fait ce mal, elle n'était pas en mesure de me donner autre chose. Donc je peux pas en vouloir à quelqu'un de me faire du mal sur la base que il n'était pas en mesure de me faire autre chose que du mal finalement. C'était plus fort que lui.
Vous avez compris, vous avez été loin dans la compréhension de l'autre.
Mais oui, parce que je suis parti du principe que l'amour, moi j'ai des enfants, des fois je les engueule, mais l'amour que j'ai pour mes enfants, l'amour pour qui que ce soit, c'est la chose qu'on donne spontanément. Et sans amour, on peut pas vivre autour de soi. Donc, si on a une charge de responsabilité envers autrui, s'il n'y a pas cet amour dans cette charge de responsabilité, eh bien, ça peut pas fonctionner. Et cette personne, elle a l'amour, elle va le donner. Si elle le donne pas, c'est qu'elle l'a pas. Donc, je peux pas en vouloir à une personne qui m'a méprisé, qui m'a maltraité parce que elle avait pas cet amour en elle pour franchir le pas et dire non, ça, je peux pas le faire.
Oui, et en même temps, ça, vous pouvez le dire parce que vous avez traversé tout le processus du pardon. Vous voyez, vous parliez de la haine et du désir de meurtre.
C'était grave. Bah,
c'est, à la fois, c'est grave, mais on peut avoir en soi, quand il y a une maltraitance grave, on peut avoir en soi ce genre de sentiment. Ce qui est grave et interdit, c'est de passer à l'acte.
Hein? Oui, mais déjà, de vivre avec ça, c'est plus grave, je trouve.
Alors, par contre, c'est grave, c'est douloureux, ça amène à des comportements destructifs, à des relations destructives. Enfin, ça fait beaucoup de dégâts quand on est animé par la haine. Parfois, c'est un passage, j'allais presque dire un passage obligé, c'est-à-dire quand on a vécu vraiment de la maltraitance, bah, c'est normal de ressentir de la colère, de la violence en soi, de la haine, parce qu'on l'a emmagasiné finalement.
Oui, mais j'étais bloqué, je pouvais plus vivre ça.
Voilà. Alors, c'est là où tout le travail sur soi permet et vous a permis aussi de dépasser ce sentiment de haine et de mettre un sens au travers de ben, finalement ces personnes pouvaient pas me donner ce qu'ils avaient pas et s'ils avaient de la violence en eux ben ils m'ont donné ce qu'ils avaient en eux alors c'est mal mais ils pouvaient pas faire autrement parce qu'ils n'avaient pas d'amour en eux.
C'est ça, et j'en suis arrivé un truc qui était complètement, un processus qui était complètement inversé, parce que maintenant, je vais, bon, ces personnes sont décédées, si un jour je vais sur la tombe de ces personnes me recueillir, ben c'est moi qui va leur demander pardon d'avoir eu d'avoir été, on va dire, intérieurement, d'avoir souhaité de leur faire du mal.
Oui, vous dénouez quelque chose. Enfin,
je crois que c'est à vous que vous pouvez pardonner d'avoir souhaité de leur avoir fait du mal, parce que c'est une réaction un peu normale, si vous voulez. Voilà, quand on a mal, on a envie de crier. Et si ça se répète, bah, ça forcément, ça anime.
Cette histoire m'a renvoyé aussi à mes propres péchés, à mes propres fautes. Parce que moi aussi, je me suis mis dans la posture de me dire, quand t'as fait du mal à cette personne, et quand t'as fait du mal à cette personne, comment tu étais intérieurement pour avoir fait du mal à cette personne? Parce que c'est par rapport à la foi que je parle de ça. Et que je veux rentrer dans une forme d'humilité.
Et oui, que c'est moi, votre chemin.
Dans ma démarche d'adulte, de personne responsable, j'ai fait du mal à des gens dans ma vie.
Oui, bien sûr, mais
donc vous êtes allé très loin dans cette compréhension du sens et donc de retourner en amour tout ça. Hein.
Et oui, j'ai compris qu'on ne pouvait pas fonctionner avec les personnes et qu'on était même victime de ça soi-même, de son propre comportement, si on n'avait pas en soi de l'amour pour autrui.
Voilà, tout à fait. Et en même temps, il faut du temps, et vous avez dit que ça a mis des années.
Voilà. Des années, parce que j'ai 50 ans, et le pardon... Mais par contre, là où je suis libéré, c'est que c'est un vrai pardon.
Ouais.
Bah oui.
C'est pas un pardon... C'est pas une poire qu'on coupe en deux.
Voilà, c'est pas intellectuel, c'est vraiment un pardon...
C'est profond de l'être.
Ouais.
Parce que souvent, comme vous disiez tout à l'heure, par rapport au pardon intellectuel, ça m'est arrivé de dire « il faut pardonner, je pardonne », mais en fait, dans la vraie vérité, j'y étais pas encore arrivé.
Ouais. Bien sûr, ouais.
Ouais. Et là, vraiment, j'y suis arrivé. Parce que je le sais, parce que chaque fois que je repense à ça, pour moi, j'ai pardonné.
Vous êtes en paix.
Oui, j'ai vraiment pardonné. C'est là. Je suis plus dans le doute du pardon. J'ai plus de doute.
Mais écoutez, vraiment, c'est un très très beau témoignage, très positif, constructif, qui montre l'importance de travailler.
L'importance de traverser tout le processus de pardon, y compris la colère, la haine.
Mais la foi m'a beaucoup aidé.
Et avec le soutien de la foi aussi. Et puis de mettre du sens, de comprendre une compréhension, ce qui permet de pardonner au final.
Ce que j'ai découvert, c'est qu'on faisait beaucoup de mal à autrui. Enfin, moi, ça m'arrivait de faire beaucoup de mal à autrui par manque d'amour, même que j'ai de l'amour, mais par égoïsme.
En tout cas, merci d'avoir témoigné de ça.
C'est une entrave dans la vie de tous les jours. Je suis trop égoïste dans ma vie de tous les jours. Je suis pas assez bienveillant pour faire attention aux choses. Je pense beaucoup à moi et je m'en veux.
On a tous à travailler, beaucoup, l'humanité.
Vous en voulez pas, je crois. Ce qui est important, c'est d'en être conscient et non pas de culpabiliser, mais de vouloir changer. C'est ça qui est important. Parce que on est tous humains. Alors, justement, ça nous amène à la suite.
Un grand merci, Pierre. Merci
à vous de m'avoir écouté.
Merci de ce témoignage.
Merci pour les gens qui vont écouter. Peut-être que ça va les aider peut-être aussi, je ne sais pas.
Sûrement.
Sûrement, oui.
Merci, Pierre. Bonsoir. Ben justement, on va écouter toute Nelly. Nelly, bonsoir.
Oui, bonsoir Chantal et bonsoir... j'ai déjà oublié son
nom. Pascal.
Pascal, voilà. Merci pour votre présence et merci aussi pour les personnes qui m'ont accueilli.
Merci, c'est gentil, mais on va, parce que là, on va bientôt...
Oui. Alors, donc, moi, je ne sais pas trop comment... Voilà. J'ai de très beaux enfants. J'ai souvent raconté mon histoire aussi bien à vous et au père Guy Gilbert et à d'autres personnes. Il y a 18 ans, j'avais eu la révélation que je suis partie à 15 ans parce qu'on me prenait pour une folle. Et c'est vrai qu'effectivement, dans cette panique-là, j'ai pensé que du moment que tout le monde me rejetait et qu'on avait la haine contre moi, Je suis partie et j'ai laissé un homme et deux enfants qui avaient quand même 24 et 20 ans. Ouais. Et je me suis dit, s'ils ne veulent plus de moi, c'est mieux que je parte. Et puis là, ma fille me reproche de ne pas m'être occupée d'elle, alors que je souffrais moi-même d'être rejetée. Bon, c'était un choix que j'avais fait de vivre toute seule, de repartir à zéro, de vivre d'une façon assez monacale. Et puis, j'ai appris il n'y a pas très longtemps, il n'y a peut-être même pas une dizaine d'années, qu'elle m'en veut, que je l'ai abandonnée, tout ça, alors que j'essayais par tous les moyens d'avoir des contacts. Et j'ai pris conscience que j'ai pas toujours été à l'écoute, que j'ai pas été une bonne mère, en fait. Je suis la première à dire que j'ai pas été une bonne mère, parce que j'étais dans la souffrance avec mon ex-mari et avec l'incompréhension qu'on avait pour moi. Je partais en pensant que je n'intéressais personne et que c'était mieux pour moi de vivre cette vie monacale plutôt que d'être avec des personnes qui me rejetaient. Et j'ai beau demander pardon, mon fils, il a changé. Je pense qu'il se fait aider psychologiquement parlant. Mais ma fille, elle m'a carrément rejetée chaque fois que je l'appelle depuis pratiquement une dizaine d'années au téléphone. Elle ne décroche jamais. Et la dernière fois, elle a envoyé un courrier en disant « Mon frère m'a demandé de te souhaiter ton anniversaire. Regarde un peu comme je suis gentille, mais c'est même pas la peine que tu essaies de me téléphoner pour dire quoi, c'est pas la peine qu'on se parle. De toute façon, les problèmes sont pas réglés. Donc, tant qu'ils seront pas réglés, c'est chacun chez soi. Et je sais que je voudrais bien savoir qu'est-ce qu'elle peut me reprocher. Voilà. Je ne sais pas comment faire. Oui. Je ne sais pas comment faire.
Bah, vous savez, ce qu'elle peut vous reprocher, c'est d'abord la façon dont elle a vécu votre oui. départ pour une vie maniacale, alors que vous étiez une famille, donc voilà, elle a mal vécu les choses et c'est ça qu'elle vous reproche. Voilà, mais à partir de là, je crois que ce qui est important, il y a deux choses. La première chose, c'est de garder un lien. Alors, vous l'avez par son frère, enfin, par votre fils.
Voilà, plus ou moins, voilà.
Ce que vous pouvez faire aussi, c'est peut-être garder un lien, mais assez neutre. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas l'obliger à vous pardonner ou autre. Donc, vous pouvez garder un lien, voilà, à son anniversaire, lui, c'était son anniversaire, à Noël, pour Noël. Si.
Est-ce que je fais tous les ans? Tous les ans, j'ai pas de réponse. Et elle, sur le courrier, elle m'a dit que de toute façon, que si elle passait dans le coin en allant voir son frère, si elle me voyait, elle me dirait bonjour, comme elle dit bonjour à toutes les personnes qu'elle rencontre, mais ça n'irait pas plus loin, quoi.
Entendu,
je suis plus rien pour elle, quoi.
Non, justement, moi, j'allais vous dire, allez, pas dans un rejet total, puisqu'elle vous dit qu'elle serait prête à vous dire bonjour.
Oui.
Donc, elle n'est pas dans le rejet. Vous savez, il y a des fois, il y a vraiment un rejet. Et il y en a qui disent, bah, si je te croise dans la rue, je détourne mon chemin. Donc, elle est dans une démarche. Voilà, mais peut-être pas d'aborder cette souffrance. Donc, dans un lien plutôt neutre, aseptisé, vous voyez ?
Voilà, c'est ça. C'est ce que j'entends. Ça fait drôle de ne plus être... Enfin, c'est pas de ne plus être considérée comme une mère, mais ça fait drôle que sans que je comprenne réellement, je ne lui ai pas fait tort. Je pense pas que... Je n'ai pas dans l'esprit, je n'avais aucune intention ni pensée de faire du mal, puisque...
Voilà, il y a son vécu à elle. Elle oui. l'a vécu comme quelque chose de douloureux. Alors après, je crois que c'est son processus à elle, et peut-être ce que vous pouvez faire, c'est d'accepter que elle mette du temps. à accepter votre départ et votre retour. Voilà, que chacun a son rythme, finalement, oui, par rapport à son vécu, et ça va lui demander du temps.
Donc, c'est une acceptation de...
Donc, c'est d'accepter qu'elle prenne du temps. Garder le lien, comme ça, le jour où elle aura accepté son vécu et qu'elle aura pu pardonner, ben, vous vous retrouverez.
Voilà, courage, Lélie.
Je vis dans l'espérance, en tout cas. Je prie pour, sans arrêt, je prie pour qu'ils réussissent.
Passer dans la confiance et l'espérance, comme vous le faites.
Voilà, Nelly. L'acceptation, ça, c'est vrai. Je l'accepte, mais ma foi, il y a des passages à vide où c'est très, très dur de ne pas prendre ses enfants. Enfin, mon fils, si, ça va, mais elle, de la prendre dans les bras, c'est ma première en plus.
Mais faites-vous aider, éventuellement.
En tout cas, merci, un grand merci.
Je ne sais pas par qui de me faire aider, je ne sais pas par qui.
Voyez quelqu'un... psychothérapeute, un psychanalyste, faites-vous aider.
J'ai toujours été habituée à me débrouiller toute seule.
Ah oui, mais là, peut-être, priez pour qu'il y ait sur votre route la bonne personne, voilà, puisque vous priez beaucoup, Nelly. Priez pour que, justement, le Seigneur mette sur votre route la bonne personne, et vous verrez, il y a des choses qui vont se passer. Voilà, bon courage et bonne route dans la confiance. Merci, Nelly. On se retrouve dans quelques instants. Et on écoute tout de suite, c'est Michel Fugain, « Je n'aurai pas le temps », espérons qu'on va la voir.
Radio Notre-Dame.
Je n'aurai pas le temps, pas le temps, même en courant, plus vite que le vent, plus vite que le temps, même en volant, je n'aurai pas le temps, pas le temps. De visiter toute l'immensité d'un si grand univers, même en sortant, je n'aurai pas le temps de tout faire. J'ouvre tout grand mon cœur. On aime vraiment, même en 100 ans, je n'aurai pas le temps, pas le temps.
Michel Fugain, je n'aurai pas le temps. Dépêchons-nous pour avoir le temps, Pascal Parinet, justement d'annoncer que le 28 et 29 septembre, vous faites un stage, c'est ça ?
Voilà, sur comment sortir de la dépendance affective.
Oui.
Et des autres dépendances éventuellement, parce que dans nos stages, chacun peut travailler vraiment ce qui lui tient à cœur. Il y a un thème directeur, mais après, chacun amène ses propres problématiques.
C'est sortir de la dépendance, quelle que soit la dépendance. Et c'est, alors, le téléphone, 06...
Alors, 06 60 15 79-60.
Il faut s'inscrire.
Il faut s'inscrire avant, oui.
Oui. 06-60-15-79-60.
60, voilà. Oui. Ou sinon, contact.
Contact, oui.
@
Oui.
IFPSY.
Oui.
.com.
Voilà. contact@ifpsy.com.
Voilà.
Alors, on va poursuivre un peu, parce que là, allons jusqu'au bout. Hein, on parlait de, justement, de faire des liens, hein, voilà, aussi, juste avant.
Oui, parce
lorsqu'on
que
a pris lorsqu'on a pris conscience, faire des liens.
C'est important d'élargir le champ et de mettre en lien la blessure actuelle avec un champ plus important de vécu,
oui.
Pour mieux comprendre l'historicité des réactions, oui. et surtout pour pouvoir mettre du sens. Pourquoi cet événement-là vient me toucher autant, vient me blesser autant, et ça permet de mettre du sens.
Oui.
Et c'est ça le plus important, c'est Pierre, hein, je crois.
Oui.
Voilà, il a réussi à mettre du sens, ouais, sur son
et
vécu.
À faire des liens, justement.
Voilà.
Pour...
Et à faire des liens, mais tout ça, ça demande du temps.
Bah oui, il l'a dit.
Alors
hein.
Voilà, ça peut demander presque 50 ans si on le fait tout seul, voilà, ou moins de temps quand on le fait en thérapie.
Mm-hmm.
Alors... Après, il y a à reconnaître son humanité, parce que la souffrance renvoie à la vulnérabilité.
Mmh.
Si on est blessé, c'est qu'on est vulnérable.
Oui.
Mais en même temps, le sens qu'on peut mettre sur les événements va permettre de reconnecter justement à son humanité. Et ça fait partie de l'humanité d'être vulnérable. Hein. On n'est pas tout puissant, on n'est pas Dieu, on est vulnérable. Et il y a à en prendre en compte ses propres limites humaines et puis celles des autres aussi. Et donc il y a aussi à prendre en compte l'autre en considération, et c'est ce qu'a réussi à faire Pierre.
Oui.
Voilà, et ça veut dire de réajuster sa vision de l'autre.
Il l'a réajusté, il a compris. Qu'on peut donner que de l'amour, si on n'a pas d'amour, on peut pas donner, oui.
Et souvent, on attend de l'autre qu'il soit idéal. Alors, idéal, plus ou moins, mais en tout cas, qui soit tel que nous, on le voudrait.
Qui réponde à notre attente.
Voilà. C'est pas le cas. Chacun est différent, et voilà.
Donc, prendre notre en considération ensuite.
Reconnaître sa responsabilité. Alors, c'est ce qu'il a dit aussi, il y a des moments, j'ai blessé d'autres,
oui.
Et choisir de pardonner.
C'est un choix, oui.
Voilà. En tout cas, on n'est pas responsable des blessures qu'on a reçues, mais on l'est de nos réactions. Et ce qui rejoint l'adage que je disais tout à l'heure.
De Sartre, là.
Voilà, l'important, c'est pas ce qu'on a fait de moi, mais ce que j'en fais aujourd'hui.
Oui, c'est ça. Et ensuite, alors, il y a encore d'autres étapes.
Voilà, se pardonner à soi-même, parce que la blessure touche personnellement et elle peut générer de la culpabilité ou tout un tas de sentiments, de ne pas être à la hauteur, d'être vulnérable, d'être faible. Voilà, et donc il est important de se pardonner et d'accepter son humanité.
Voilà, oui. Voilà. Se pardonner, accepter son humanité.
Voilà.
Et à une fois que cela est réalisé...
Il s'agit de lâcher
ouais.
prise
ouais.
Sur tout ce qui peut encore retenir, comme l'attente de la demande de pardon venant de l'autre, bien sûr la vengeance, le pouvoir sur l'autre, parce que finalement, ne pas pardonner, c'est aussi une façon d'avoir un pouvoir sur l'autre, de le rendre coupable, de le culpabiliser, ou encore sur l'orgueil, de dire, voilà, qu'il y a une réaction de défense. Et souvent, ça, c'est le plus difficile d'arriver à lâcher.
Et ensuite, alors...
Et ensuite, la dernière étape, c'est la réconciliation.
Quand elle est possible.
Quand elle est possible, mais quand la personne est toxique, bah, il vaut mieux garder ses distances.
C'est plus sage. Voilà, donc ça, c'est tout le processus. Hein.
Oui.
Alors, donc, peut-être, parce que là, on va arriver à la fin de l'émission, il y a plusieurs questions. Mondo dit, je voudrais demander un conseil pour savoir si je peux pardonner ou pas.
Oui, bah, on a eu le témoignage de Pierre,
hein, qui est vraiment très éclairant. Hein, pour
qui montre qu'on peut pardonner. Après, la question, c'est, est-ce qu'on a le désir de pardonner et est-ce qu'on veut ou pas? Hein? C'est pas tant est-ce que je peux ou pas, c'est est-ce que je veux ou pas. Si on veut,
un processus va pouvoir se
voilà. Faire. Déjà, on amorce le processus par le désir de pardonner. Mmh. Et puis après, si c'est vraiment des choses difficiles, graves, ben, y a toujours la possibilité de se faire aider. Mmh. Donc, on peut pardonner. Parfois, ça prend du temps. Parfois, c'est difficile. Mais c'est possible. Et après, il faut surtout déjà se poser la question, est-ce que je veux ?
Est-ce que je veux, oui. Marie-Christine nous dit, dans les névroses obsessionnelles, quelle est la part de la culpabilité ?
Très importante. Dans toutes les névroses obsessionnelles, la culpabilité est quelque chose de fondamental, de très présent. Voilà.
Voilà, donc, important. Jean-Marc, Monsieur Parrini est intéressant, c'est à la fois une question, j'ai 51 ans, j'ai eu une rupture avec une femme il y a un an, et le paradoxe, c'est que c'est moi la victime, j'ai rencontré la juge d'application des peines, cette femme est psychotique et schizophrène, et elle plaît. Ça fait 10 ans que je suis en psychothérapie, c'est dans le thème du pardon. Enfin, qu'est-ce que vous pouvez conseiller à Jean-Marc ?
Oui, c'est de continuer sa psychothérapie, parce qu'elle est apparemment il l'a quitté. Il y a une rupture longtemps.
Oui.
Donc de faire ce travail par rapport à de deuil, par rapport à la rupture. Et puis après, si cette personne est psychotique. Ça veut dire que finalement, elle a peut-être pu le blesser, mais elle le voulait pas. Elle est, c'est une personne qui est malade, et donc tout ce qui s'est passé relève en très grande partie de sa maladie. Mmh. Et donc c'est là, il peut avoir un regard bienveillant et de compassion. Par rapport à son ex-épouse et prendre conscience que la maladie est forcément intervenue dans leur relation de couple.
Voilà. Donc ça aussi, cette compréhension, elle aide justement à la prise de distance et de compréhension. Quoi,
De comprendre et elle aide au pardon parce qu'une fois qu'il comprendra tout l'impact de la maladie de son épouse dans cette rupture, il pourra lui pardonner beaucoup plus facilement.
Alors il y a Sylvie aussi, c'est par rapport à la maltraitance. J'ai revécu cela. Comment faire ? On vit à côté et du coup, toute la maltraitance s'est réveillée.
Là, il faut se faire aider. Par rapport à la maltraitance, faut se faire aider parce que c'est, qu'elle soit physique ou psychologique, la maltraitance, c'est quelque chose de traumatisant. Alors, surtout que souvent, ça dure. Hein, souvent, la maltraitance, elle est ou dans l'enfance ou dans les couples. Ça arrive aussi qu'il y ait de la maltraitance dans les familles, soit sur les enfants, soit entre couples. Et c'est quelque chose qui est dur et qui est traumatisant. Et là, ça nécessite de se faire aider pour pouvoir se reconstruire. C'est ce que je disais par rapport au traumatisme. Il y a d'abord une reconstruction à faire qui en parallèle à ce chemin de pardon et qui permet, il faut déjà être reconstruit pour pouvoir pardonner.
Un grand merci Pascal Parrini. Donc je rappelle que le 28 et 29 septembre, à vous donner un stage hein, sur comment sortir de la dépendance affective et des dépendances, hein, chacun apporte la sienne dans votre stage. Le téléphone 06 60 15 79 60 et puis contact@ifpsy.com. Tous les renseignements sont au standard. Grand, grand merci également à Marie-Françoise et à Annick qui vous accueillaient au standard ce soir et à Charlotte qui était à la technique. Cette émission est disponible sur CD. Demain à 22h, écoute dans la nuit. Notre invité sera le père Régis-Marie de la Tessonnière, chapelain des sanctuaires Notre-Dame de Lourdes. Dans la perspective de l'année de la miséricorde, pour la préparer aussi, eh bien le thème de la soirée, le Christ nous apprend la miséricorde. Très très bonne nuit à tous, à demain.
De cette émission sur le www.radionotredame.com.